France Musique.
Alors moi, il m'épate.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Mazette. Quelle musique ! Nous sommes à présent au cœur de l'automne, premier dimanche de novembre. Notre flânerie musicale aura donc le prétexte d'un thème de développement personnel, la solitude, solitude bienheureuse, Beata solitudo, sola beatitudo, que l'on traduira sans pouvoir imiter vraiment le balancement parfait du latin par heureuse solitude, seule béatitude. Beata solitudo, sola beatitudo, maxime attribuée sans aucun indice réel à Sénèque, puis à Saint Bernard. Elle apparaît gravée dans la pierre ou dans le bois, dans de nombreux lieux depuis l'automne du Moyen-Âge. Les brumes d'automne, bleues sur le lac, le premier gel qui redresse tous les brins d'herbe, poudre de jade sur les fleurs délicates, ma petite lampe s'éteint et m'appelle au sommeil, l'automne dans mon cœur dure depuis longtemps. Le solitaire en automne. Mazette, quelle musique! Kathleen Ferrier, la Philharmonie de Vienne, dirigée par Bruno Walter, dans ce deuxième mouvement du Chant de la Terre de Gustav Mahler, Le Solitaire en automne. Ostinato des violons, fragments mélodiques nostalgiques des bois, hésitation entre mineur et majeur, une atmosphère élégiaque mais empreinte de gravité, pour autant pas désespérée me semble-t-il, et dans la nature automnale, un grand désir de repos, de consolation à l'heure où dans la lumière crépusculaire, les frontières du sommeil et de la veille, de la rêverie et des songes s'estompent. Solitude, rêverie, c'est le titre de cette belle élégie pour violoncelle et piano que nous écoutons à présent, composée par Rita Lavillette, à peine plus connue sous le nom de Rita Stroll, le nom de son premier mari, bretonne, vive, décidée, entreprenante, compositrice plutôt prolifique dans tous les genres, jusqu'à présent peu éditée, peu enregistrée, peu jouée, ce qui est dommage, car si Forêt et Duparc ne sont pas très loin, bien sûr, on entend un grand talent, une vraie personnalité musicale affirmée. Mais Solitude, rêverie est l'œuvre d'une jeune femme de 22 ans à quelques mois de son mariage.
Thank you.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette solitude rêveuse m'a paru plutôt sereine, voire bien heureuse. Glorieux poète du temps de Louis XIII et du début du règne de Louis XIV, grand voyageur, présent sur tous les théâtres d'opération, qu'ils soient littéraires ou militaires, personnalité nodale de la première fournée d'immortels, j'espère que l'Académie française me pardonnera cette expression un peu familière, Marc-Antoine Girard, sieur de Saint-Amand, écrivit dans l'exubérance de sa jeunesse « La solitude ». La solitude, grande ode en 20 strophes de 10 octosyllabes chacun. « Oh, que j'aime la solitude, que ces lieux sacrés à la nuit, éloignés du monde et du bruit, plaisent à mon inquiétude. Mon Dieu, que mes yeux sont contents de voir ces bois qui se trouvèrent à la nativité du temps et que tous les siècles rêvèrent, être aussi beaux et verts qu'au premier jour de l'univers. » L'œuvre connut un succès foudroyant, bien au-delà des frontières du royaume, et c'est sur ce texte un peu raccourci, mis en anglais, que Henry Purcell composa un air qui lui aussi devint immédiatement un succès, un tube, et le redevint à notre époque, notamment grâce à Alfred Deller. « Oh solitude, my sweetest choice », nous faisons une infidélité à Alfred Deller, nous écoutons aujourd'hui Andréa Scholl, et c'est un ravissement. Ah, merveilleuse solitude, quel bonheur d'être aujourd'hui seul dans ce studio.
Solitude, my sweetest choice. Oh, solitude, oh, solitude, my sweetest, sweetest choice.
Every field to look
N'est pas toujours aussi proche de l'idéal, admettons-le. Le choix de la solitude et du désert peut être aussi le choix du désespoir et même l'attente pressante de la mort. Sombre désert, retraite de la nuit, sacré refuge du silence, un malheureux à qui le monde nuit, dans ses bois toujours inhabités, vient chercher sa mort pour mieux cacher sa flamme. Son tourment est si beau qu'il ne veut pas guérir, il ne vient pas se plaindre, il ne vient que pour mourir. Tout cela est chanté en la majeure, mais avec l'ornementation, l'intonation, les effets rhétoriques qui insinuent une pesante impression d'une désespérance absolue. C'est un air de cour, contemporain de l'air de Purcell, mais écrit de ce côté-ci du Channel par le maître très admiré de l'air de cour au XVIIe siècle, Michel Lambert, sur un poème de Jacqueline Pascal, qui à 27 ans entrera définitivement à Port-Royal des Champs et qui n'est autre que la sœur d'un des grands génies de ce temps, Blaise Pascal. René Jacobs chante « Sombre désert » accompagné au théorbe par Conrad Jungenel.
Toujours inhabité.
quelle musique ! Pessoa l'a écrit dans le livre de l'intranquillité « La solitude me désespère, mais la compagnie des autres me pèse ». De l'absence, de l'oubli, de la disparition de la tendresse, de la mort de l'amour, sourd la solitude la plus désespérée. Avec le temps, tout s'en va, avec le temps, on oublie le visage et l'on oublie la voix. Avec le temps, tout s'évanouit quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait, pour qui l'on eût vendu son âme. On oublie les passions, on oublie les voix, et l'on se sent tout seul, et l'on se sent floué par les années perdues, alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Une des plus belles chansons françaises, un grand classique, repris à travers le monde par tant et tant d'artistes, une chanson composée en 1969 par Léo Ferré, qui traversait alors une période de deuil et d'amère solitude, chantée ici par Dalida, avec une émotion à fleur de voix.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les lignes, entre les mots et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules à la galerie farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard surtout, ne prends pas froid. Avec le temps, s'en va et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu et l'on se sent glacé dans un lit de hasard et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Et l'on se sent tout seul, mais la solitude à deux n'est-elle pas pire encore parfois? C'est en tout cas ce que nous chante, et avec la fougue d'une vraie tragédienne, la jeune et belle Argie, au tout début des Paladins. Les Paladins, c'est une comédie lyrique jubilatoire de Jean-Philippe Rameau, une véritable comédie musicale éblouissante avant l'heure, écrite en 1760 par un compositeur de 77 ans, mais plein de verve, d'humour, d'inventivité. Mais ici, c'est un lamento que nous écoutons. Argie dit combien lui pèse sa solitude face au vieux barbon jaloux et répugnant qui la tient recluse et surveillée de près dans l'intention de la forcer à l'épouser, bien sûr. Triste séjour, solitude ennuyeuse, le retour d'un jaloux doit vous rendre encore plus affreuse. Solitude ennuyeuse que votre aspect met odieux. Finalement, on préfère peut-être vivre la solitude toute seule ou tout seul, même lorsqu'elle n'est pas heureuse, mais que l'on parvient tout de même à vivre avec, sans fureur, sans alanguissement, sans trop d'apitoiement sur soi-même non plus, en conservant son compte à soi. C'est ce que nous livre avec une élégance vocale comme toujours incroyable Eileen Farrell, cantatrice américaine, une des rares, voire la seule, à être parvenue, parce qu'elle y tenait et que rien ne pouvait contrarier sa volonté, à mener de front deux carrières. L'une qui la fit acclamer sur les scènes d'opéra, y compris le Met à New York, et dans les salles de concert, avec un répertoire qui allait de Bach et Handel à Wagner, Verdi, Puccini, Berg. L'autre, où cette voix puissante, glorieuse, se mettait au service de la musique populaire et du jazz. C'était une vraie performance à une époque où l'Amérique détestait alors ce que nous appelons aujourd'hui le crossover, avant de s'y vautrer avec un sens commercial affûté. Ici, Eileen Farrell chante « Solitaire, the game of love », le jeu de l'amour. Le solitaire, c'est le jeu de cartes, je ne sais pas comment vous l'appelez, la réussite, la patience. Et le jeu de l'amour, c'est l'aventure amoureuse. Et les deux se mêlent dans une atmosphère onirique un peu douloureuse, certes, mais toujours avec humour, douce ironie, pour constater in fine que, entre cœur et pique, que règne son roi, le jeu de l'amour est pour elle le solitaire.
A game of love, to have to get your kicks without the shame of love, the blame of love, the holdouts, the wait, the teasing, the bait. Then all at once you find yourself without a mate, a celibate, and in between the love affairs is when it's great to contemplate the eight of hearts, nine of spades, ten of hearts goes on the Jack of spades. Every card must go somewhere. That's the rule. Playing solitaire. Turn the cards one by one till the game is either lost or one, then to bed. But in my head, the foolish game goes on and on. The cards appear to me in slumbers. The king, the queen, the numbers. Cards won't pair, for you're not there, and I'm a queen without a king. I'm wide awake at 5 o'clock. Sleep won't come. 6 o'clock. And still it's the same with me. The game with me seems to be solitaire. Un
jeu de cartes pour jouer au solitaire, pour faire une réussite, ou un bon livre, ou même un instrument de musique, son instrument de musique. Voilà une vraie solitude, même lorsque le monde n'est pas dépeuplé autour de vous. Solitude bien heureuse, le plus souvent, oui, mais il peut arriver que cette solitude, devant le clavier par exemple, vous plonge dans des affres épouvantables. On le voit dans un beau documentaire sur Mahler, tourné en 1998, que nous n'allons pas voir, ça ne se fait pas à la radio évidemment. Cela se passe lors d'une répétition générale ouverte au public au Concertgebouw à Amsterdam. Maria Joao Pires est assise devant le clavier, elle est déjà étreinte par le trac, et tout d'un coup elle est littéralement foudroyée par les premières notes de l'orchestre. C'est l'introduction du grand concerto en ré mineur Köchel 466, alors qu'elle s'apprêtait à jouer un autre concerto de Mozart. Ce n'est pas l'affolement, c'est la panique. Elle est perdue, elle se prend la tête dans les mains, elle alerte le chef d'orchestre. Je ne vais pas pouvoir jouer, je n'ai pas la partition avec moi, je ne peux pas. Ricardo Chailly, c'est lui, continue à diriger, mais il tente de se montrer rassurant, presque bonhomme. Vous le connaissez ce concerto, nous l'avons joué la saison dernière, vous vous en souvenez? Les 3 minutes de cette introduction d'une musique qui, elle-même prégnante, dramatique, angoissante, sont dignes d'un climax d'un bon film d'Hitchcock. « Vous allez y arriver, j'en suis sûr », lui dit Chailly. Et elle y arrive très bien, après avoir vacillé au bord de l'abîme dans ce grand moment de solitude, et c'est magnifique. Grand moment de solitude. En 1838, Schumann quitte Leipzig pour Vienne. Il croit qu'en raison de l'opposition du père Vic, il ne parviendra jamais à épouser sa fille Clara. Il est déprimé à tous égards, esselé dans une ville qui pour lui n'est qu'hostilité, solitude. Il compose l'Arabesque opus 18 comme une lettre passionnée destinée à lui-même, solitaire, et à Clara, perdue mais toujours éperdument aimée. Un premier mouvement lyrique, un passage plus fougueux, un épilogue méditatif et un très court postlude, zum Schluss langsam, pour finir lentement, comme une confidence faite presque à la va-vite, à lui-même, dans sa solitude. Nous écoutons ce postlude, Maria João Pires, merveilleusement remise de toutes ses émotions. Dans la période pré-romantique, et plus encore à l'ère romantique, la culture, la recherche, la passion de la solitude, heureuse ou non, devient un must. Ainsi, François-René de Chateaubriand dira son attrait dès son enfance à Combourg pour la solitude. Plus tard, c'est avec volupté, écrira-t-il, qu'il recherchera l'isolement et jouira de la solitude, par exemple dans la splendeur des paysages américains, qu'il regrettera de quitter pour revenir aux affaires et rentrer, comme il le dit, au carrefour souillé et bruyant du monde. En témoigne aussi le choix de passer l'éternité dans l'isolement sublime d'un tombeau qu'il fait édifier sur l'îlot désert du Grand Bé, au pied des remparts de Saint-Malo. C'était la dernière partie du Tombeau de Chateaubriand de Louis Aubert, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigé par Georges Tsipine. Louis Aubert était natif de Saint-Malo, même s'il préféra en fait le Pays Basque, et peut-être n'avait-il pas tort, je ne sais pas. Il atteignit une certaine renommée en France et aux États-Unis avant et juste après la Grande Guerre, mais malgré tous ses talents d'orchestrateur assez raffinés, son œuvre sombra dans l'oubli, hormis peut-être ce Tombeau de Chateaubriand, beau poème symphonique, composé pour les célébrations du centenaire de la mort de l'écrivain en 1948. Toute l'œuvre de Chateaubriand est parcourue par les mille raisons de la solitude, presque une vertu à ses yeux, ainsi dans René, dans Le génie du christianisme, dans Les mémoires d'outre-tombe, et bien sûr dans son ultime chef-d'œuvre, sénile sublime, surréaliste et parfois hilarant, qu'est La vie de Rancé. La solitude est peu utile sans le silence, car on ne se sépare des hommes que pour parler à Dieu, en interrompant tout entretien avec les créatures. Nous n'allons pas discuter cette maxime de Rancé lui-même, l'abbé Tempête, comme l'appelait Henri Brémond, mais nous allons poursuivre néanmoins en musique, sous l'égide d'un autre grand écrivain romantique, Alphonse de Lamartine.
Thank you.
Nous écoutions Solitude, inspirée par les méditations poétiques de Lamartine. Qui a composé Solitude? Qui a écrit ces beaux passages murmurant Do en fa dièse mineur, qui encadrent cette magnifique mélodie en fa dièse majeur, cette cantilène sereine, délicate, heureuse? Ce n'est pas Chopin, c'est Louis Moreau Gottschalk, natif de la Nouvelle-Orléans et véritable pianiste globe-trotteur, parcourant sans relâche les deux Amériques après ses études à Paris. On découvre peu à peu son œuvre et à chaque enregistrement, on découvre un joyau, comme cette pièce, Solitude. Solitude heureuse, m'a-t-il semblé, solitude lamartinienne au milieu de la nature, sous le regard bienveillant de la Providence avec sa bénédiction dans la solitude et dans la surabondance de sa grâce. Solitude tranquille, comme celle du moine auquel un autre Américain, Samuel Barber, donne la parole dans ses Hermit Songs, Chant de l'ermite de 1953, une suite de mélodies sur des textes écrits par des moines irlandais entre le 8e et le 13e siècle et mis en anglais par quelques poètes contemporains comme W. H. Auden pour ce récit du 9e siècle. Pangur blanc, Pangur, que nous sommes heureux seuls tous les deux, moi l'érudit et toi le chat. Chacun a sa tâche quotidienne, pour toi la chasse aux souris, pour moi l'étude des livres. Content chacun de ce qu'il fait, aucun ne gêne l'autre. Ainsi nous vivons toujours, sans ennui et sans envie, que nous sommes heureux. Aucune indication de tempo. À l'instar du moine et de son chat, pianiste et chanteuse doivent donc se mettre d'accord. Nous écoutons la dédicataire et créatrice de l'œuvre, la grande Leontine Price, accompagnée par le compositeur Samuel Barber, comme on dit là-bas. Que nous sommes heureux, la solitude bienheureuse à deux, zen, absolument zen. Sur le coup de 3 heures. C'est l'heure des propos badins, pour ainsi dire des propos impermanents et empreints d'une gaieté tranquille, sereine, zen. Du bambou, 10 pieds et 1 pied et 10 pouces. Vers 1212, dans ses notes de ma cabane de 10 pieds, Camo Nechemey écrit « Mieux vaut avoir pour ami la harpe et les flûtes, la lune et les fleurs ».
Thank you.
fils de prêtre, jadis fonctionnaire attaché au bureau de la poésie de la cour impériale. Voilà quelque chose qui manque à nos belles institutions républicaines. Camon Chomeil décida à l'âge de 50 ans, en 1205, de quitter la cour et de se retirer dans la splendide et très mystique presqu'île du Kii, au sud de Kyoto. Et jusqu'à sa mort en 1216, il y vécut en ermite, dans la solitude d'une nature qui est exubérante, désert des hommes, mais très peuplé par la faune sauvage, paysage d'une beauté souveraine, dans la solitude de la méditation également, et du détachement intérieur, de la quête de l'illumination, dans la solitude aussi de la musique, il jouait de la flûte et du biwa, le luth japonais, dans la solitude de l'écriture enfin. Il finit par s'installer dans ce qu'il décrit lui-même comme une toute petite bicoque de bambou de 10 pieds seulement, posée à même le sol, et c'est là qu'il écrivit la chronique de son époque, les cataclysmes de la nature, les calamités provoquées par les hommes. Il décrit aussi avec une plume sensible, intense, très poétique, sans affectation aucune, sa paisible existence érémitique, sa contemplation de la nature, du temps qui passe, ses méditations sur l'universelle précarité de la vie humaine et l'impermanence des choses. Depuis que j'ai quitté le monde et que j'ai choisi la voie du renoncement, je me sens libre de toute haine comme de toute crainte. J'assimile ma vie à un nuage inconsistant, je n'y accroche pas mon espoir et n'éprouve pas non plus de regret. Pour moi, le plaisir suprême est celui que j'éprouve sur l'oreiller d'une sieste paisible, et l'ambition de toute ma vie est de pouvoir, selon les saisons, contempler un beau paysage. Si quelqu'un doute de ce que je dis ici, qu'il contemple l'allure des oiseaux et des poissons. Les poissons ne s'ennuient jamais d'être dans l'eau, il faudrait être poisson pour comprendre ce sentiment. Les oiseaux ne demandent qu'à vivre dans les bois, il n'y a que les oiseaux à comprendre cela. Il en est de même des joies de la solitude, on ne peut l'apprécier qu'en la vivant. Vaut avoir pour ami la harpe et les flûtes, la lune et les fleurs. Et la flûte que nous entendons est un shakuhachi, une flûte droite. C'est un morceau d'une tige de bambou séchée à l'ombre, percée de 5 trous, 4 devant, 1 à l'arrière, et accordée sur une échelle pentatonique. L'embouchure de cette flûte n'est qu'un simple bord biseauté. Et ce n'est rien dire que d'ajouter qu'il n'est pas trivial de parvenir à en tirer des sons audibles et harmonieux. C'est l'expérience qui parle. Shakuhachi veut dire shaku, un pied, un peu plus de 30 cm environ, et hachi, 8, c'est-à-dire 8 pouces, environ 25 cm. C'est donc un bambou de 1 pied et 8 pouces, 55 cm. Le shakuhachi fut pendant des siècles un instrument religieux, réservé aux moines bouddhistes, notamment aux moines des congrégations zen à partir de l'époque de Camon Chomeil, en particulier aux moines issus de la classe des samouraïs, qui, après leur conversion, devenaient des komuso, littéralement des moines du vide, moines itinérants, mendiants, qui couvraient leur tête d'un panier de paille de jonc ou de roseau pour manifester leur absence d'ego, panier dont on ne voyait sortir que le shakuhachi, comme on le voit sur notre site. Et les solos méditatifs de shakuhachi étaient comme un remerciement du moine errant pour l'aumône reçue au cours de sa pérégrination. En 1967, sur une commande passée par l'Orchestre Philharmonique de New York pour son 125e anniversaire, Toru Takemitsu, grand compositeur, pas assez joué à mon goût, compose très subtile musique November Steps, ça tombe bien, pour grand orchestre et deux solistes, les deux instruments de Kamo no Chomei, le luth biwa et le shakuhachi.
France Musique, Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou.
arrangé pour violoncelle et orchestre, une belle mélodie, très lyrique, d'Antonín Dvořák. Laisse-moi seul partir dans mes rêves, ne perturbe pas la volupté de mon cœur, laisse-moi toutes mes joies, laisse-moi mes peines. Poursuivons notre flânerie parmi les musiques de la solitude avec une partition somptueuse au service d'une histoire qui mêle, entremêle rêve et réalité et montre la solitude essentielle de personnages enfermés dans leur monde avec leurs fantômes, leurs fantasmes, leur fascination morbide pour le passé enfui. C'est une partition de Wolfgang Erich Korngold, La ville morte, œuvre d'un jeune compositeur d'à peine 22 ans, librettiste aussi sous un pseudonyme, d'un opéra inspiré du roman Bruges la morte de George Rodenbach. Il a été représenté partout en Europe, sauf en France et à New York, dans les mois qui suivirent sa création simultanée à Hambourg et à Cologne en 1920. Nous écoutons le célèbre air de Marietta et le duo avec Paul à l'acte 1. Sont-ils vraiment deux ou rêvent-ils seuls dans sa solitude? Sa béatitude est-elle réelle ou purement fantasmée? Peu importe, quelle musique! la correspondance de 15h21. La correspondance d'aujourd'hui nous laisse bien esseler devant un choix difficile. Quel standard choisir pour écouter la solitude ? On serait tenté de se tourner vers Duke Ellington et son célébrissime Solitude, My Solitude de 1934, par exemple dans l'interprétation superlative d'Hélène Merrill.
In my solitude, you haunt me with reveries of days gone by.
Sublime, mais plutôt que d'entendre la voix intérieure, certes poignante, de la solitude, nous voulons voir, rencontrer, regarder les gens seuls, les gens solitaires et presque invisibles.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
C'était Eleanor Rigby, un des plus grands succès des Beatles, et la création de cette chanson fut un feuilleton compliqué, tant pour les paroles, le choix des noms en particulier, que pour la musique. Le chœur commence, regardez tous les gens seuls, d'où viennent-ils, quelle est leur place. Le soliste nous parle d'Eleanor Rigby, qui ramasse le riz dans l'église après les mariages, vit dans un rêve et attend à la fenêtre que quelqu'un vienne la voir. Puis du père Mackenzie, qui écrit un sermon que personne n'écoutera, et la nuit venue, quand il n'y a plus personne, reprise ses chaussettes. Eleanor Rigby meurt dans l'église et elle est enterrée sans que personne ne vienne. Le père Mackenzie essuie la poussière de ses mains alors qu'il revient de la tombe d'Eleanor Rigby. Personne n'est sauvé, regardez tous les gens seuls. La musique, magnifique, prenante et, si je puis me permettre, un peu plus sophistiquée que d'habitude. Balance incessante entre do majeur et mi mineur, ostinato, rythme syncopé, alternance entre sixte majeur et sixte mineur, descente chromatique de la basse comme dans une chaconne baroque. L'œuvre se distingue aussi par le fait que la partie instrumentale est confiée à un ensemble de cordes, violon, alto, violoncelle, sans aucun des instruments habituels, pas de guitare électrique, pas de batterie, etc. Et puis, mis à part Paul McCartney, soliste mais chanteur seulement, les trois autres de la bande ne participent que dans les brèves interventions chorales qui, comme un chœur de tragédie grecque, interpellent l'auditeur « Regardez tous les gens seuls ». Paru en août 1966 au sein de l'album Revolver, mais simultanément en single avec sur l'autre face du 45 tours Yellow Submarine, Eleanor Rigby, chanson finalement très singulière, loin des canons de la pop music des 60s, rencontre un succès foudroyant, devient une des chansons les plus emblématiques des Beatles et sera reprise par des dizaines et des dizaines d'artistes d'horizons très différents. Par exemple, la reine de la soul Aretha Franklin, Count Basie, Stefan Grappelli, Sarah Vaughan ou John Baez.
Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in the jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Ou encore la cantatrice américaine d'origine arménienne, Cathy Berberian, qui, dès décembre 1966, c'est-à-dire 4 mois à peine après la parution de l'album, enregistre à Paris, avec simplement un quatuor à cordes et un clavecin, cette version quelque peu intemporelle, pour faire aimer les chansons des Beatles aux parents sick. Les parents des boomers avaient sacrément de la chance.
Waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Nous achevons notre flânerie parmi les musiques de solitude, solitude bienheureuse. Sans vouloir conclure, bien sûr, nous retiendrons sans doute que la solitude peut être heureuse, à tout le moins sereine. Certes, comme le disait Rancet, probablement dans le silence. Nous allons évidemment suggérer dans l'instant à Jérémy Rousseau de consacrer une prochaine émission de la Tribune des Critiques aux versions anciennes et récentes de 4 minutes 33 de Silence de John Cage. Mais surtout, solitude heureuse dans la nature, en automne ou pas, comme la solitude resplendissante, ronde, celle du soleil ou de la lune, pour reprendre les mots du poète Edmond Jabès. Et puis il y a la solitude bienheureuse avec la musique, comme le moine et son chat. Solitude très heureuse avec son instrument, y compris tout simplement avec sa voix intérieure ou sa voix sifflée ou chantée. Solitude de celui ou celle qui joue l'instrument, son instrument, et béatitude partagée avec ceux qui pourront l'entendre ou même l'écouter. L'allemande de la partita pour flûte seule, une flûte traversière, pas un shakuhachi, de Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
L'émission s'achève. Solitude heureuse dans ce studio, mais bonheur de travailler avec la fine équipe de l'autre côté de la vitre. Laurent Lefrançois, Benjamin Vignal et Nelly Portal pour le site. Sur la page Mazette, quelle musique du site de France Musique, vous trouverez toute la programmation musicale, celle d'aujourd'hui, celle des émissions qui l'ont précédée. Et puis la réécoute et le podcast. Nous nous retrouvons dimanche prochain, même heure, mais pas même lieu. Dans une semaine, peu chère, quelle musique nous conduira jusqu'à Marseille. Et c'est une vraie béatitude. Excellente semaine sur France Musique et dans moins d'une minute, Brut d'accordéon, avec Félicien Bru, naturellement.
À réécouter sur francemusique.fr.